Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors les foules sont-elles irrationnelles et stupides? A contrario, existe-t-il une intelligence collective capable de résoudre des problèmes trop compliqués pour les experts eux-mêmes?
Oui, la question a été débattue depuis des siècles, mais elle prend un sens très nouveau dans le contexte actuel de rébellion des masses contre les élites, de duel entre ochlocratie, gouvernement par la foule, et méritocratie, pouvoir des mandarins. Mais pour en venir à l'actualité nationale la plus chaude, c'est une question réactivée par le grand débat national. Qui nous garantit que les impressions recueillies auprès de millions de Français sur des sujets aussi complexes que la politique fiscale ou l'organisation des pouvoirs publics vont permettre de faire émerger les solutions les plus judicieuses, les mieux adaptées à la situation actuelle de notre pays? Eh bien, l'université de St. Andrews en Écosse vient de rendre publique une étude menée à ce sujet au sein de son département de biologie. Selon son responsable, Wataru Toyokawa, cette étude, je cite, « démontre que les comportements irrationnels grégaires ont tendance à se manifester quand la taille du groupe de référence augmente, ainsi que s'accroît le niveau de difficulté des problèmes à résoudre ». Pourquoi? Eh bien parce qu'au-delà d'un certain nombre de participants, les membres d'un groupe ont tendance à se conformer à ce qu'ils pensent être l'avis de la majorité, plutôt que d'essayer de prendre connaissance par eux-mêmes des données d'un problème. Et Wataru Toyokawa écrit « Les foules humaines peuvent être affectées de folie collective quand des connaissances invalides, voire nuisibles, deviennent virales. » Et bien c'est le genre de comportement dangereux qu'on observe notamment lors de la formation de bulles financières sur les marchés, et c'est évidemment le risque que nous font courir les nouveaux médias numériques. Entrent alors en jeu le conformisme et l'imitation. Avant de choisir un restaurant ou un candidat aux élections, nous cherchons à savoir ce qu'en pensent les autres et nous avons tendance à mettre de côté ce que nous savons pour nous fier à cet avis des autres. Or, ce sont en règle générale les plus extrémistes et les plus bruyants qui se font le plus entendre. Et on les confond donc avec l'avis de la majorité parce que la majorité, elle, préfère se taire. Les abeilles aussi sont des animaux sociaux. Elles manifestent une réelle capacité à prendre des décisions collectives. Le fameux biologiste autrichien Carl von Frisch l'avait observé au XIXe siècle. Lorsqu'une abeille a déniché une source d'alimentation, elle revient à la ruche en frétillant des ailes. Plus cette danse dure longtemps, plus elle signale à ses congénères que la source est abondante. Eh bien, notre problème à nous, heureux ressortissants du XXIe siècle, c'est la puissance inégalée des moyens de communication dont nous disposons. Certaines folies collectives peuvent prendre des dimensions virales à cause des réseaux sociaux.
Pourtant, Brice, certains intellectuels persistent à miser sur l'intelligence collective.
Oui, c'est le cas notamment de Geoff Mulgan, qui fut l'un des principaux conseillers politiques de Tony Blair et de Gordon Brown. Il est également le cofondateur du think tank britannique Demos. Et il vient de publier un essai intitulé en anglais « Grand esprit, comment l'intelligence collective peut changer notre monde ». La lettre confidentielle Phoebe de cette semaine rend compte de cet ouvrage sous la plume de Pierre Schweitzer, que je cite. « L'engouement pour l'intelligence collective vient du constat contre-intuitif selon lequel l'agrégation d'avis d'individus autonomes, nombreux, variés et ne se connaissant pas, dépasse très largement la capacité des plus excellents experts d'un domaine donné. » C'est évident, par exemple, lorsqu'il s'agit d'opérations simples, telles que l'évaluation, figurez-vous, du nombre d'un bonbon dans un bocal. Mais ça l'est également face à des opérations beaucoup plus complexes, comme par exemple de préconiser le meilleur coup à venir aux échecs. Dans les cas où il s'agit d'apporter une réponse précise à une question précise, on peut miser sur l'intelligence collective, car les différentes réponses peuvent être facilement agrégées. Mais pour que l'intelligence collective puisse agir efficacement, plusieurs conditions doivent être réunies d'après Geoff Mulgan. En particulier, l'existence d'un cadre conceptuel commun porteur d'une même vision du monde, un constat de base partagé sur la nature des problèmes à résoudre. Et pour que fonctionne cette intelligence collective, 5 clés sont encore nécessaires. Ce qu'il appelle des communs autonomes, c'est-à-dire des éléments de connaissance qui ne soient pas soumis à une autorité extérieure ni à des censures quelconques. Un équilibre raisonnable entre les différents éléments composant cette intelligence collective. Que le groupe ait conscience que certaines dimensions du problème sont subalternes et ne méritent pas d'être prises en compte. Un retour d'expérience honnête et transparent. Enfin, je cite, la capacité à mettre de côté la complexité qui a servi à la réflexion au profit d'une simplicité qui favorise les actions concrètes.